I'd like to have a democracy.
Municipal 2014 à Arras, Radio PFM et La Voix du Nord organisent un débat entre les différents candidats. Vous entendrez les positions et les propositions des 5 listes en lice sur des thèmes comme la démocratie locale, la politique générale, la lutte contre les inégalités ou encore la culture. Débat PFM Voix du Nord, spécial premier tour des municipales à Arras, diffusé sur Radio PFM 99.9 le mardi 11 mars à 20h, rediffusion le mercredi 12 mars à midi et 21h, le jeudi 13 à 10h du matin et le dimanche 16 mars à 13h. Ça sera en libre écoute et téléchargement dès le 11 mars en soirée, www.radiopfm.com. Et puis le débat fera aussi l'objet d'un compte-rendu dans les colonnes de la Voix du Nord à Arras. On a street, I'd like to have a democracy. Élection municipale 2014 à Arras. Le premier tour a lieu le dimanche 23 mars. Radio PFM et La Voix du Nord vous proposent un débat entre les candidats. Les 5 listes en lice à Arras ont bien entendu été invitées. Alors une défection de dernière minute, malheureusement, la liste L'Humain d'abord pour Arras, liste soutenue par le Parti communiste français. Donc la liste de la tête de liste René Chevalier n'a pas pu se dégager de ses obligations professionnelles. Et Fabienne Nathan, qui était la numéro 2 sur la liste et qui devait être présente ici aujourd'hui, s'est décommandée ce matin pour raison familiale. On précise qu'on donnera la parole, on questionnera cette liste dans les prochains jours sur Radio PFM pour respecter aussi l'égalité stricte de temps de parole à notre antenne. On accueille donc ici dans l'une des salles de l'office culturel 4 représentants de liste. Alors dans l'ordre que l'on vient de tirer au sort, Philippe Rapneau, numéro 3 sur la liste de Frédéric Le Turc Arras au cœur, liste sortante soutenue par l'UDI et l'UMP. Vous êtes l'actuel président de la communauté urbaine d'Arras, conseiller régional et secrétaire départemental de la fédération UMP Pas-de-Calais. François Desmazières, tête de liste pour les citoyens s'engagent, liste sans étiquette. François Desmazières, conseiller municipal à Arras, vous travaillez dans le domaine de l'énergie. Hélène Flautre, tête de liste pour Arras en grand, Arras ensemble, liste soutenue par Europe Écologie, Les Verts, le PS, le MRC, le PRG. Hélène Flautre, députée européenne Europe Écologie, Les Verts. Et Alban Euzel, tête de liste du Rassemblement Bleu Marine, liste Front National à Arras. Vous êtes commercial dans le domaine de l'immobilier. Alors c'est à notre connaissance le troisième débat organisé cette année entre ces listes. Le premier a eu lieu à l'initiative de Nord Nature à Arras, c'était le 11 février dernier sur les thématiques environnementales. Le deuxième, c'était un débat télévisé passé sur WEO le 13 février dernier. Et c'était déjà avec La Voix du Nord, déjà avec Hubert Ferré qui est à mes côtés. Bonjour Hubert.
Bonjour.
Alors, troisième débat donc, on a choisi d'aborder les thématiques suivantes, la démocratie locale, la politique générale, donc les questions liées au budget, aux priorités politiques, le vivre ensemble à Arras, donc là il sera question en ce point de lutte contre les inégalités sociales et territoriales, lutte contre le chômage et la précarité. Il sera aussi question de qualité de vie à Arras. Et puis dernier point que nous aborderons dans ce débat, la thématique culture. Chaque candidat a 2 minutes pour s'exprimer sur chaque thème, plus 2 minutes supplémentaires pour réagir et rebondir sur ce qui a été dit par les autres candidats. On commence avec la première thématique choisie pour ce débat, démocratie locale, Hubert Ferré, La Voix du Nord Arras.
Oui, l'abstention avait atteint les 35% au municipal de 2008 et les médias, alors au niveau national, et les médias avaient déjà à l'époque analysé ça comme le signe d'une désaffection des citoyens, y compris pour un scrutin qui, comme la présidentielle, est censé a priori les intéresser. Cette fois-ci, plusieurs sondages font état d'une participation de plus en plus en berne et donc d'une abstention qui pourrait flirter avec les 50%, on n'espère pas à Arras. On n'est plus au stade de la désaffection, on est carrément dans le rejet. Alors à votre niveau, pour tenter de contrecarrer un phénomène nourri par un contexte national délétère et guidé par le règne de la politique spectacle, que comptez-vous faire d'abord d'ici dimanche prochain pour convaincre les Arrasois de se rendre aux urnes? Et puis ensuite, Que comptez-vous faire pour rabibocher ces mêmes Arrageois avec une démocratie locale qui n'en a souvent que l'appellation ou les apparences, même si Arras semble quand même bien loti en la matière. Jean-Marie Van Lorenberg avait lancé il y a 10 ans des réunions et des conseils de quartier que Frédéric Le Turc a repris et développé. Est-ce que c'est ça la vraie démocratie participative? Est-ce cette proximité avec les habitants, est-ce aussi cette proximité que les habitants reconnaissent au maire actuel? Ou faut-il aller encore plus loin, comme le préconise d'ailleurs dans leur programme respectif un François Desmazières qui a eu une démarche inédite en choisissant de sonder les habitants avant de construire son projet, ou une Hélène Flautre qui promet de doter les conseils de quartier de budget participatif, ou encore de créer un site dédié à la démocratie participative sur lequel toutes les décisions majorales seraient inscrites et décrites de façon transparente?
Alors sur le premier thème, donc démocratie locale, on écoute donc d'abord Philippe Rapneau pour Arras au cœur.
Merci. Effectivement, si j'ai bien compris, la question c'est faut-il aller plus loin? Je pense qu'en termes de démocratie participative, la réponse est oui. Même si effectivement, je pense que la liste et la majorité sortante à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir a fait déjà beaucoup dans ce domaine. Vous l'avez rappelé, Jean-Marie Van Lorenberg a initié les réunions de quartier qui ont été développées, amplifiées, qui sont une forme de démocratie participative, qui ne doit pas être la seule, bien évidemment, puisque c'est vrai que parfois on est sur des sujets un peu récurrents et qu'on a des difficultés parfois à échanger avec les participants sur d'autres thématiques. Ceci dit, au-delà de ces 50 réunions qui ont été menées sur le mandat, de la concertation qui nous anime sur chaque grand projet, dans les réunions de parc-quartier, de consultations qui sont faites, il n'est pas pour nous nécessaire effectivement d'engager des grandes consultations à partir du moment où pour chaque projet ces consultations sont réalisées. On a évalué à peu près à 5000 personnes le nombre de personnes qui ont donc participé à ces réunions. Nous avons mis en place un certain nombre de structures. Certaines sont obligatoires, comme les conseils de développement. Mais nous avons eu aussi le développement du réseau Vivaldi. Et puis, en termes de participation, bien évidemment, c'est l'échange, le quotidien avec la population. Quand on a la chance d'être élu et qu'on est présent sur le terrain, cette démocratie participative, elle est quotidienne dans les échanges que nous avons avec les habitants d'Arras, que ce soit à la sortie des écoles, que ce soit dans les manifestations culturelles, sportives et autres. Donc je pense que cette démocratie participative, elle est fortement présente déjà sur Arras, que bien évidemment, il est important de pouvoir la développer un peu plus. C'est ce que d'ailleurs j'ai engagé au niveau de la communauté urbaine, notamment avec des consultations identiques sur l'ensemble des communes de la communauté urbaine où je fais des réunions.
Philippe Rapneau, merci. On écoute maintenant sur le même thème, démocratie locale, François Desmazières, Les citoyens s'engagent.
Alors la démocratie participative, Hubert Ferret l'a rappelé, elle est dans nos gènes. Ça fait un an qu'on construit notre projet municipal avec les Arrageois, à travers non seulement une plateforme dédiée qui a été fréquentée par plus de 7000 visiteurs uniques, mais aussi avec du porte-à-porte depuis plus d'un an qui nous a permis de rencontrer plus de 10 000 habitants. Un mot simplement préalable, vous évoquiez 2008, l'abstention nationale était de 35, celle d'Arras était de 37, donc si les chiffres de 2014 étaient moindres, je pense qu'il y a une grande vigilance à avoir pour Arras. Je pense que la bonne préparation à la démocratie participative, c'est d'abord de respecter la démocratie représentative, et c'est donc de se faire campagne et de s'engager à fond dans une campagne. Et de ce point de vue, je pense dommage que le maire, qui n'avait pas été élu par les Arrageois, n'ait pas jugé utile de défendre une vision, un projet, de s'engager dans cette campagne et de se contenter du service minimum. Alors que propose-t-on sur le sujet? Plusieurs choses. Je pense que pour redonner confiance à la démocratie, il faut à la fois de la transparence et il faut des outils. La transparence, nous l'avons inscrite là aussi dans notre ADN en signant, en étant une des deux premières listes du Pas-de-Calais à signer la charte anticorps, ce que Hélène Flautre a fait ensuite, et je trouve ça bien, je trouve ça malheureux qu'il n'y ait que 250 listes en France qui l'aient fait. On reprend un certain nombre de ces engagements, et notamment de confier à l'opposition la présidence de la commission d'appel d'offres et de la commission des finances, de retransmettre les conseillers municipaux sur Internet et de donner aux Arrageois un droit de pétition, comme ça existe par exemple à Paris, sur 1% des personnes de plus de 18 ans. Ça représenterait entre 250 et 300 personnes à Arras qui, sur pétition, manuelle ou informatique, permettraient de saisir le conseil municipal d'un sujet de leur choix.
François Desmazières, merci. Sur le thème démocratie locale, on écoute maintenant Hélène Flautre, liste Arras en grand, Arras ensemble.
Monsieur Rapneau a rappelé les nombreuses réunions publiques qui ont été organisées, qu'on pourrait qualifier plutôt de réunions de communication et de propagande municipale, tant la capacité réelle des habitants à peser sur la réalité des projets et de fait contredite à chaque instant. Je voudrais prendre deux exemples. La première, c'est la consultation qui a été faite sur la place des héros piétonnes, pour laquelle les habitants ont très largement souscrit à l'idée que cette place devait devenir piétonne et qui, on le constate chaque jour, est toujours encombrée de voitures et de la circulation. La deuxième consultation que vous avez faite et qui a concerné beaucoup d'habitants qui ont répondu avec bon cœur, c'est celle concernant la citadelle. Et on voit aujourd'hui à quel point les projets qui sont défendus par vous, monsieur Rapneau, au sein de la citadelle, correspondent très mal à des habitants qui voyaient d'abord dans cette citadelle des activités de culture, des activités de loisirs et de promenades, qui prohibaient à une très très forte majorité, au-delà de 70%, la circulation automobile dans la citadelle. Donc je crois que la première des règles pour être crédible en matière de discours sur la démocratie participative, c'est le respect des consultations qui sont organisées. Or, elles sont là organisées à des fins purement de communication politique et c'est absolument dommageable parce que ça alourdit, j'allais dire, la dette démocratique que nous avons par rapport aux habitants. Les habitants que vous mobilisez pour des consultations qui sont après contredites dans les faits, c'est un peu plus de désespérance, un peu plus d'abstention, un peu plus de relations néfastes avec les politiques et les institutions. Et évidemment, il y a beaucoup à faire dans le domaine. Et moi, je crois que l'échelle locale, c'est vraiment un terrain sur lequel on peut redonner aux habitants le goût de la participation, de l'action et d'être partie prenante des projets qui les concernent directement. Et c'est ce que nous comptons faire avec ces conseils de quartier et avec les budgets participatifs.
Hélène Flautre, merci. On passe maintenant à Alban Euzel pour Rassemblement Bleu Marine.
Oui, bah déjà pour la démocratie locale, ça commence plutôt mal, puisque M. Le Turc et M. Chevalier ne sont pas là. C'est dommage. Je pense que M. Rapneau va nous expliquer pourquoi... justifier l'absence de M. Le Turc, mais voilà, moi je pense que c'est important. Personnellement, je ne suis pas un professionnel de la politique, je travaille à côté. J'ai pris ma journée pour ce débat, donc je pense que c'est une marque de respect pour les journalistes qui nous invitent, et puis également bah, pour nos adversaires, et puis pour les Arrageoises et les Arrageois. Voilà. Donc, concernant la démocratie locale, je pense qu'il est nécessaire évidemment qu'il y ait des comités de quartier, bon, c'est déjà mis en place. Il faut améliorer, dans le sens qu'on peut aussi faire des sites collaboratifs au niveau de la municipalité pour connaître les projets municipaux et que les Arrageois puissent s'exprimer sur ces sujets. Ça, on peut mettre en place des bornes informatiques au niveau de la mairie, par exemple. On peut mettre en place aussi des réunions tous les 3 ou 6 mois pour expliquer aux citoyens la politique locale. Car ça peut paraître compliqué pour un certain nombre d'habitants. Je pense, par exemple, expliquer le calcul de l'impôt, la mise en place d'un projet communal, les décisions sur les investissements, les rapports entre les collectivités et les banques par rapport aux emprunts. Donc ça, ce sont des sujets plutôt importants et intéressants à développer. Dans les comités de quartier, dont je parlais juste avant, il faut évidemment qu'il y ait aussi des experts, des techniciens, qui puissent, parce que évidemment, les élus ne peuvent pas tout savoir, il faut qu'ils soient entourés. Et pour mieux expliquer les différents projets à la population. Mais surtout, pour moi, le plus important dans la démocratie locale, ce sont les référendums locaux. Voilà. C'est ce qui manque, notamment à Arras. J'ai eu l'occasion, dans diverses interviews, de parler de différents projets. Je parle du cinéma complexe cinématographique, d'une piscine olympique qu'on pouvait envisager. Et je pense que ce serait bien, sur des sujets importants, d'interroger les Arrageois.
Deuxième tour de parole sur toujours ce thème démocratie locale. Chacun va pouvoir réagir à ce que les autres ont dit. Peut-être on peut relancer les candidats sur les thèmes suivants. Donc la prise en compte des consultations publiques. Madame Flautre a parlé de réunions propagandes. Peut-être Monsieur Rabneau, vous pourrez réagir sur ça. Et puis on a parlé aussi pas mal dans cette campagne finalement des associations, du rôle qu'elles peuvent jouer, la place des associations d'usagers comme la DAV, Au Secours 62, on peut citer aussi l'association AWA à Arras Ouest. Quelle place pour ces associations d'usagers dans la production, le conseil auprès des politiques? Philippe Rapneau.
Bah écoutez, moi j'ai le sentiment d'être un petit peu, forcément quand on appartient à la majorité sortante, d'être un peu la cible de quelques attaques sur le sujet, c'est tout à fait normal. Je voulais simplement dire à Madame Flautre que elle a une vision de ce que sont les réunions de quartier. Si elle y avait participé, elle aurait pu constater par elle-même que c'était pas le cas. Voilà, je pense que les Arrasois savent. Ils savent que quand ils ont besoin de voir le maire d'Arras, c'est pas compliqué pour aller donner un avis. Il suffit de le voir ou de le croiser dans la rue où il est très fréquemment. Et que c'est une consultation permanente qui est organisée. En plus, on parle d'une consultation sur la piétonnisation de la place des Rouges. Je ne sais pas de quand elle date officiellement cette consultation. Je n'ai pas souvenir qu'elle ait eu lieu. Qu'il y ait des discussions, mais qu'une consultation avec un avis qui a été émis officiel, je ne sais pas par quel organisme ça a été réalisé, et donc dans quelles conditions ça a été fait. Quant à la citadelle, Je le redis, c'est une consultation, effectivement, qui a été faite avec un souhait qui a été émis par plus de 5000 personnes, qui ne sont pas d'ailleurs tous arrageoises, qui sont venues à la citadelle et qui ont défini ce qu'ils souhaitaient pour la citadelle. Et effectivement, la circulation, il n'a jamais été dit que les gens voulaient que ce soit piéton complètement. Je tiens à la disposition de Madame Flotte les documents, qu'effectivement, on souhaite qu'il n'y ait pas une attitude invasive de la voiture, nous y travaillons. Je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont déjà d'ores et déjà actés. Mais ce que ont surtout voulu les gens, c'est un véritable quartier dans Arras. Et un quartier, eh bien, c'est un endroit où on peut effectivement se déplacer de toutes les manières possibles, en mode doux et autres. C'est un endroit où on vit, on vient travailler, on habite, etc. Et d'ailleurs, je crois que Madame Flautre, qui avait initié une démarche auprès de l'UNESCO et du ministère de la Culture en sollicitant un ministre étranger sur le sujet, a eu une réponse très claire du ministère de la Culture sur la façon dont était porté le dossier de la citadelle et toute la satisfaction qui est celle de l'ensemble des partenaires dans le cadre du contrat de site sur la gestion de la citadelle.
François de Desmazières, les citoyens s'engagent.
Oui, rencontrer un maire et pouvoir lui poser une question, ça me semble être dans l'ordre naturel des choses. La question et l'enjeu, c'était sur la façon de redonner du sens à la politique et de redonner de l'envie aux habitants de participer au débat démocratique. De ce point de vue, je pense qu'on peut faire preuve de beaucoup plus d'audace. Nous avons proposé la publication des indicateurs de gestion, parce que pour permettre aux habitants de s'exprimer, il faut d'abord qu'ils aient les outils, leur faire avoir de la pédagogie. Et donc publication des indicateurs de gestion, des notes de frais des élus, ouvrir une partie du budget d'investissement à la coproduction participative. On a fixé un seuil à 20%, donc 20%, ce serait voilà, en moyenne autour de 2,5-3 millions d'euros que les habitants pourraient affecter. Il y a des outils et des systèmes qui existent aujourd'hui. C'est aussi des conférences de citoyens. Par exemple, on va avoir la renégociation de la DSP sur l'eau. Il me paraît important que les citoyens puissent être associés à un temps fort qui est important pour leur quotidien. Et puis, c'est tout simplement respecter les droits de l'opposition. On s'est amusé, le mot est peut-être pas juste, à calculer la place moyenne de l'opposition dans le magazine Arras Actualité. On est à 0,5% de l'espace occupé par l'opposition. Voilà, quand ça n'est pas tout à fait conforme à la réalité des réalités arrageoises.
Hélène Flautre.
Une précision sur le temps. Quand vous levez la main, il nous reste combien de temps? C'est que c'est
5
fini
secondes, ouais.
5 secondes. Donc, il faudrait peut-être le faire un tout petit peu avant, comme ça on a le temps de conclure sans être mal à l'aise.
D'accord.
Ok, merci. Oui, vous dites, monsieur Rapneau, qu'on peut voir le maire partout. Manifestement, on peut le voir partout, sauf dans les débats qui concernent l'avenir d'Arras. C'est quand même extrêmement embêtant. Moi, j'ai participé à 4 débats avec des têtes de liste. Je l'ai vu qu'une seule fois. Hein. Donc, je trouve que là, vraiment, ça n'est pas une démonstration de grande proximité et de grands soucis de la démocratie et du respect, d'ailleurs, des électeurs et des citoyens. Et je trouve ça très inquiétant, parce que la démocratie, c'est d'abord le débat, débattre ensemble. Et je crois que, quand je parle de propagande, je parle de, comme on dit, propagande électorale, c'est-à-dire qu'il est absolument nécessaire que les usagers, par exemple, des services locaux, que les associations qui ont des intérêts dans la délivrance des services publics, eh bien, puissent prendre part, non seulement à l'ensemble des documents de gestion, c'est, vous le savez, le travail que fait très bien au Secours 62 sur la question de l'eau, par exemple. Il est tout à fait anormal que tous les habitants ne soient pas au courant que Veolia empoche, par exemple, 1,6 million de dividendes après impôts sur leur facture d'eau. Eh bien ça fait partie du débat public et je crois qu'il est très important que l'ensemble des documents qui concernent le territoire eh bien, soient rendus publics sur un site qui y soit dédié et qu'enfin on réunisse les habitants avec des objectifs précis dans une méthodologie qui est claire et annoncée à l'avance et que l'enjeu du travail en commun soit clair pour tous et soit respecté par l'institution. On ne peut plus, on ne peut pas faire semblant. Je veux dire, il y a trop de dégâts qui ont été faits. Et je crois qu'il faut prendre une conscience claire. Moi, j'ai cette conscience très aiguë. Je l'avais avant, en voyant les chiffres calamiteux de l'abstention. Et comme députée européenne, on parle souvent de l'éloignement. Mais vraiment, dans la proximité ici, dans le porte-à-porte, quand je discute avec les habitants, je vois à quel point ils se sentent relégués. Et je crois qu'on ne peut pas, on ne peut pas vraiment jouer avec cette notion de démocratie. Et donc, transparence, démocratie, participation, respect des habitants dans toutes les procédures, ça doit être la règle. Et pour vous aussi, monsieur Rapteau, le respect des droits de l'opposition future à Arras, je l'espère.
Alors, dernière intervention sur ce thème démocratie locale, Alban Heusel.
Déjà, je note que M. Rapneau n'a pas répondu à la question.
Voilà. Je voudrais vous répondre, M. Heusel, si on me donne 30 secondes pour le faire.
On a un temps limite, on a un canevas de débat. Si vous voulez, votre prochaine intervention, vous pourrez, mais c'est important pour nous de respecter l'ordre de parole et d'intervention.
Ouais, mais
et
quand puis, c'est un débat, c'est pas grave, c'est un débat.
Alban Heusel, s'il vous plaît. Alban Heusel. Sur cette question de démocratie locale.
Oui, non, mais je revenais quand même par rapport à M. Le Turc, parce que bon, vous avez peut-être trouvé un argument, mais enfin, c'est M. Le Turc qui est sur les affiches. Voilà, c'est pas vous. Donc, là, tout vous reste. Voilà. Je tenais quand même à le signaler. Bon, maintenant, vous n'avez pas répondu, c'est pas grave. Hein, c'est... voilà, donc, évidemment, sur tous les sujets importants, comme je vous l'ai dit, c'est les référendums, pour moi, les plus importants. Voilà, parce que bon, faire des comités de quartier, expliquer les projets aux habitants, notamment par des experts, c'est très utile. Il faut continuer dans ce domaine. Mais ce sont les référendums locaux pour moi qui sont très importants. Je pense notamment sur le projet de la citadelle, mais également sur tout ce qui a été fait en centre-ville par rapport au plan de circulation, au stationnement. Parce que bon, durant la campagne, nous avons distribué un sondage aux Arageois. Nous avons eu pas mal de retours. Et donc, beaucoup d'Arageois nous ont exprimé des remarques, notamment sur le commerce, le centre-ville. Et je pense qu'il aurait été intéressant, quand on a lancé par exemple le stationnement limité, de nouveaux horodateurs, ça aurait été bien de consulter les habitants. Voilà, ça aurait été très intéressant d'avoir le retour. Et je pense que de toute façon, ça n'aurait pas abouti, voilà, qu'on aurait eu des zones bleues, ce que je demande. C'est même quasiment sûr. Concernant donc les comités de quartier, il faut aussi également que cela concerne tous les habitants. Parce que c'est vrai, mais ça on en parlera juste après, concernant la précarité dans certains quartiers, certains habitants se sentent moins concernés que d'autres. Voilà. Donc ça c'est une politique générale qu'il faut mettre en place pour intéresser les habitants à la chose publique dans tous les quartiers d'Arras. Et puis également, donc concernant la démocratie locale, je pense aussi, comme disait M. Demazière, au droit de l'opposition. C'est quelque chose de très important à mettre en œuvre et que l'opposition soit écoutée, et notamment qu'on vienne débattre avec lui.
Voilà, je précise à nouveau qu'on est contraint par la stricte égalité de temps de parole. Et puis je précise aussi qu'à la fin de ce débat, chaque candidat aura à nouveau 2 minutes d'expression libre. Donc il pourra aborder quelque chose qu'il n'a pas pu aborder dans son intervention. Alors, deuxième thème dans ce débat, Radio PFM Voix du Nord, toujours à l'occasion du premier tour des municipales à Arras. On va parler maintenant avec les candidats de politique générale, mais aussi des conséquences de la politique nationale sur la vie locale. Le coup de rabot de l'État dans sa dotation aux collectivités, conjugué à la hausse de la TVA, et on annonce de nouvelles baisses dans les dotations d'État jusqu'en 2017. Alors comment vous, candidat, vous positionnez par rapport à ces politiques gouvernementales d'austérité et de baisse de la dépense publique ? Quelles conséquences sur les politiques que vous comptez mener ? Quelle fiscalité ? Quelles économies ? Quels seront vos choix prioritaires ? On écoute sur cette question donc François Desmazières, Les Citoyens s'engagent.
Alors d'abord sur le contexte, effectivement les politiques d'État. Ça fait 13 ans que je siège à ce conseil municipal et que j'entends alternativement les rouges s'égosiller parce que les bleus ont baissé les dotations de l'État. Et vous pouvez reprendre la phrase en changeant les rouges et les bleus et ça ne produit strictement rien. On est dans un débat qui est bien plus important, qui est celui des 2000 milliards de dettes qui sont sur les épaules de la France. Et les collectivités publiques, elles représentent 20% de ces engagements. Et donc, elles ont naturellement à y contribuer. Et je crois qu'on peut être un maire responsable en intégrant le fait qu'on n'est pas seul au monde et pas seul en France. D'autant que le gouvernement vient d'annoncer une volonté de trouver 10 milliards d'économies supplémentaires, 3 par an. Avec alors une idée peut-être intéressante et que le président de la communauté urbaine relaiera sans doute, qui est celle qu'on puisse avoir des bonus-malus en fonction des mutualisations déjà réalisées. Les sources pour nous, elles sont de plusieurs ordres. La première des choses, c'est de ramener le train de vie de la ville à sa réalité, donc d'avoir des économies. On a d'abord proposé que ces économies elles soient immédiatement chiffrables, et donc 3 points d'impôt, c'est pas de la poudre aux yeux, c'est un engagement chiffré, concret. Donc c'est un peu facile d'annoncer ce genre de formule. C'est 600 000 euros pour les Arageois. Quand je vois, ne serait-ce que le budget fête et cérémonie qui est passé de 210 à 591 kg, on en a déjà touché 381, donc plus de la moitié. Quand je regarde les hausses de subventions à l'Office du tourisme, quand je regarde les recrutements nombreux de cadres A ou de postes de cabinet du maire, je me dis que la source de recettes, elle est déjà assez évidente.
On écoute maintenant Hélène Flautre.
Bon, il faut être conscient aujourd'hui que le cadre dans lequel on va travailler, notamment l'épure budgétaire dans laquelle on va devoir développer nos projets d'avenir, c'est un cadre de sobriété budgétaire. On a une baisse effectivement de la dotation globale, même si à l'intérieur de ça, il y a un bonus, j'allais dire, pour les territoires qui souffrent le plus à travers l'augmentation de la dotation pour la solidarité urbaine. Néanmoins, pour Arras, même si cette solidarité urbaine augmente, ça fait une baisse, en tout cas pour 2014, telle qu'elle est prévue, de 390 000 euros. Alors c'est vrai que vous me direz tout est relatif, mais quand même, l'argent public est rare, il est précieux. Ça veut dire qu'il faut prévoir des investissements extrêmement bien ciblés dans les projets d'avenir. C'est quoi les projets d'avenir ? Ce sont des projets pour Arras qui prépare la transition écologique et énergétique. Ce sont des projets qui améliorent et restaurent la qualité environnementale. Ce sont des projets qui produisent plus de liens sociaux et plus d'emplois. Est-ce que ça existe, des projets comme ça ? Ça existe. La rénovation thermique, par exemple, des bâtiments, c'est un projet très important, soutenu à la fois par l'Europe, par le gouvernement, par le Conseil régional, et qui sera amplifié par notre action à la tête de la mairie d'Arras, qui produira de l'emploi local, qui produira de la baisse sur la facture des ménages et qui produira une moindre dépendance par rapport aux importations. On parlait de la dette publique. Vous savez que chaque année, la facture de la France en matière énergétique, c'est 69 milliards d'euros. Donc il est clair que ce type d'investissement est tout à fait prioritaire. Donc prioriser les investissements et faire des économies, Monsieur de Mazières en a déjà parlé, il y a beaucoup à faire, notamment dans la communication, et nous les ferons.
Alban Ezel.
Oui, alors tout d'abord, donc un constat, c'est que la dotation globale de fonctionnement, elle va être réduite de 1,5 milliard d'euros pour le budget 2014. Donc toutes ces conséquences d'austérité, ces conséquences sont les politiques d'austérité au niveau national. Donc voilà, donc j'aurais, Madame Flo répondra peut-être après, mais savoir si elle soutient le gouvernement dans ses politiques d'austérité, parce que forcément ça a des conséquences au niveau local. C'est trop facile de parler que du local, il y a aussi le niveau national qui a des conséquences. Donc concernant les économies, ça évidemment au niveau de la mairie, il faut revoir évidemment les subventions à certaines associations, il faut faire un audit sur les finances des comptes de la mairie et également donc comment on utilise les recettes. Ça c'est quelque chose d'important et ça c'est ce que nous ferons si nous arrivons à la mairie, c'est faire un audit financier pour savoir où on en est. Concernant la fiscalité, lors du dernier débat avec, sur WEO, j'ai eu l'occasion d'en parler un peu à Frédéric Le Turc, puisque j'avais expliqué que de 2009 à 2012, les impôts locaux avaient augmenté donc de 20% et qu'il était tout à fait possible au conseil municipal d'agir sur les taux pour limiter la pression fiscale. Donc, parce que Arras a des marges de manœuvre, nous avons étudié les comptes administratifs, il y a la marge d'autofinancement net est correct, il y a un bon niveau, je l'admets, la dette n'est pas catastrophique, donc si tout va bien, pourquoi ne pas baisser les impôts? C'est ça que je pose la question à M. Rapneau, pourquoi ne pas agir, alléger la pression fiscale si, soi-disant, tout va bien dans les comptes d'Arras? Ouais. Donc concernant aussi les choix sur la politique économique à Arras, évidemment nous aiderons le commerce. Bon, j'ai parlé tout à l'heure des zones bleues et également nous exonérons de taxes les commerçants. Nous mettrons aussi en œuvre des politiques au niveau de la sécurité avec la vidéoprotection et en augmentant la police municipale.
Dernière intervention sur ce thème. Ensuite, les candidats pourront rebondir. Donc, Philippe Rapneau, liste Arras au cœur.
Je pense que il y a une vraie nécessité, c'est de réduire les déficits publics. L'État s'y est engagé, a engagé une action. On peut simplement peut-être reprocher des décisions qui sont un peu brutales et qui, malheureusement, d'une année sur l'autre, impactent brutalement les budgets des collectivités. Ça a été rappelé par Madame Flotte, près de 400 000 euros en DGF de moins pour la ville d'Arras. Ça sera près d'un million pour la communauté urbaine, auquel viennent s'ajouter un certain nombre de non-recettes également. Ce qui veut donc dire qu'on va avoir moins d'argent qui va rentrer. Si en plus on nous demande de baisser les impôts, bien évidemment, ça veut dire qu'il faudra faire des choix. Et ça veut dire qu'il y a des services aujourd'hui qui sont rendus à la population sur lesquels il faudra s'interroger de leur utilité ou pas, de savoir si on veut continuer à les mener. Je pense que nous, on a été très clair sur ce sujet, c'est que les baisses de l'État, on les subit. Le maire d'Arras s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation des impôts locaux. C'est d'ailleurs le cas depuis son élection. Et je rappelle que, contrairement à ce que dit M. Ezel, avec une augmentation de 20%, la taxe d'habitation n'a pas augmenté depuis 2009. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve. On sera obligé, bien évidemment, de dépenser mieux. C'est-à-dire que chaque euro devra être investi de manière, je dirais, réfléchie, raisonnable et raisonnée. À partir de là, je pense que si les marges de manœuvre le permettent et si, en fonction des décisions de l'État, nous avons des possibilités de baisser aussi les impôts, nous le ferons. Mais nous nous refusons de nous engager dès aujourd'hui à dire que nous allons faire une baisse sans savoir où nous allons. Il faut savoir quelle va être la programmation de l'État, où l'État souhaite nous emmener. Parce que, bien évidemment, au-delà de ces dotations de l'État, il faut aussi parler de l'augmentation de la TVA décidée par le gouvernement que soutient Madame Flotte, la TVA sur les services publics qui vont faire qu'aujourd'hui le bus va coûter plus cher à la collectivité, l'eau va coûter plus cher, et c'est pas le problème de Veolia, on y reviendra certainement tout à l'heure, la collecte et le traitement des ordures ménagères va coûter aussi beaucoup plus cher avec cette hausse de la TVA.
Alors, deuxième tour de parole, justement, on pourra revenir sur cette question du coût de l'eau. Donc les économies, on a bien compris, pour M. Desmazières, frais de réception, office du tourisme. Pour Hélène Flautre, on a parlé d'économies d'énergie, et d'investissements ciblés, et puis d'économies sur la communication. Personne n'a parlé vraiment des choix prioritaires dans vos politiques, là où, par contre, l'argent sera mis. Alors on va commencer à écouter donc sur ce nouveau tour de parole à nouveau François Desmadières.
Oui, je crois. Enfin, je suis pas sûr. Sur les deux minutes, on ait le temps d'exprimer nos choix d'investissement. Ils ont été déjà assez largement commentés pour nous concernant la maison des mots, des béguinages, voilà, enfin, le produit frais. Donc, l'idée, c'est de maintenir un volant d'investissement qui est à peu près constant à Arras, fluctuant selon les années, mais autour de 15 millions d'euros, qui permettent de faire ces investissements. La question, on a évoqué tout à l'heure. Des indicateurs qui allaient bien. Il y en a certains qui sont en trompe-l'œil. La capacité d'autofinancement, elle s'est certes améliorée de 2008 à 2011. Elle est en nette dégradation. D'abord parce qu'elle avait été dopée par le fonds spécial d'intervention de l'État sur le départ des militaires. Et donc, on a eu une vision un peu en trompe-l'œil. Et puis qu'on a, je l'ai dit, des charges courantes qui ont explosé. 24% de croissance depuis 2011, là où on était à plus 21,6% de 2008 à 2011, et donc un delta de plus de 3 millions d'euros. Donc voilà où sont les marges de manœuvre, et voilà où une recette et une gestion rigoureuse permet de continuer sans, j'allais dire, en intégrant aussi les évolutions de l'extérieur. Je reste un point, alors je sais que je ne dois pas relancer le débat, mais j'ai parlé de mutualisation. Je pense qu'on a un certain nombre de services ressources, comme l'informatique, comme les ressources humaines, voire comme l'office du tourisme, qui aurait une vocation intercommunale. La question, c'est est-ce que c'est un sujet qui est porté dans cette campagne. Est-ce que, alors on rentre un peu dans le technique, mais le FPIC, qui est le fonds de péréquation, doit rester réparti comme il l'a été. Il y a une répartition CUA commune, où plutôt la CUA garde en fonction de ses grands projets. Et puis il y a une réunion à l'intérieur des communes, sur laquelle, très honnêtement aujourd'hui, on peut penser qu'Arras ou Saint-Nicolas, des villes qui ont des critères qui permettraient d'être un peu plus aidées, ne le sont pas complètement.
Hélène Flautre.
Oui, on a parlé de la dotation d'État, mais il faut savoir que ça ne représente finalement qu'un quart, à peu près, des recettes de fonctionnement de la ville. Ça veut dire que le reste des recettes, ça se passe ailleurs. Et où est-ce que ça se passe? Ça se passe en particulier dans la capacité à aller chercher des subventions. Et je crois qu'on peut être optimiste à la lecture à la fois du programme que je propose aux Arageois et des objectifs et des priorités du contrat de plan État-région 2014-2020, qui est parfaitement en ligne avec ce que j'ai défendu comme parlementaire européenne pour les fonds européens de développement. Il s'agit de soutenir la mobilité et nous avons un projet fort qui est la question des bus gratuits à haut niveau de service pour tous les Arageois. Et les gens de la communauté urbaine, nous en discuterons évidemment avec les villes concernées, qui concernent la transition écologique et énergétique, j'en ai déjà parlé, la recherche et l'innovation, nous avons un projet de pôle santé-environnement sur l'Arageois qui me paraît tout à fait relevé de cette priorité, le haut débit, Arras Ouest en souffre terriblement, tapez aux portes et discutez-en avec les gens, vous le verrez, et puis le soutien aux filières d'avenir. Donc je crois qu'il faut avoir en tête que le projet que nous proposons aux Arageois, c'est un projet qui sera cofinancé très largement par les fonds européens et par le contrat de plan État-région. Enfin, nous aurons une politique attractive, c'est-à-dire que la politique où les habitants aujourd'hui quittent, notamment les familles avec enfants, quittent la ville d'Arras, où les logements vacants sont extrêmement importants et où le centre-ville est déserté sur les premiers étages, nous aurons une politique de lutte contre les logements vacants pour faire revenir les habitants dans cette ville d'Arras. Et donc nous aurons des ressources supplémentaires, celles des habitants et celles également des entreprises qui, comme à Losangoël d'ailleurs, chez mon ami Jean-François Caron, eh bien, se pressent à la porte pour s'installer sur ce territoire.
Alban Euzel.
Oui, quand je parlais des politiques d'austérité du gouvernement, je ne parlais pas que de la dotation, il y a aussi de la TVA et toutes les autres mesures, les impôts. Là, on a appris aussi par rapport aux retraites qui vont être touchées. Voilà, donc il y a tout un ensemble qui est aussi est néfaste pour la population en France et évidemment pour les Arageois également. Concernant donc évidemment, bon, monsieur le temps n'est pas là, je ne pourrais pas lui poser la question directement, mais dans son tract, oui, dans son tract, il disait qu'il n'allait pas augmenter les impôts prochainement, mais je voudrais quand même avoir une précision, alors peut-être que monsieur Rabdo pourra m'expliquer, c'est s'il compte agir sur les taux notifiés ou pas, puisque bon, on sait qu'il y a les bases qui augmentent mécaniquement, ou si donc, mais s'il va quand même toucher au taux, voilà, au taux notifié, parce que sinon c'est une annonce en trompe-l'œil aussi. Concernant donc mes choix, comme je vous l'ai expliqué, moi c'est par rapport donc à la vie en centre-ville, les commerces qu'il faut relancer. Ce n'est pas normal d'avoir autant de locaux vides. Donc ça, c'est vraiment un choix important au niveau de... un choix budgétaire important, aider les commerçants. Mais également, donc, dans tous les quartiers d'Arras, et bon, qui subissent la précarité, c'est faire venir aussi les entreprises, les petits artisans, les aider à l'installation. Je pense au quartier Ouest, au Blanc-Mont. Vous savez que certains quartiers, malheureusement, pâtissent une mauvaise réputation, alors que ce n'est pas du tout le cas. Les habitants là-bas sont des gens tout à fait formidables. Mais voilà, une réputation, il faut mettre le paquet sur les questions de qualité de vie. Je pense à la sécurité, mettre de la vidéoprotection, augmenter les effectifs de la police municipale. Les policiers municipaux ne doivent pas être utilisés uniquement à mettre des procès-verbaux. Voilà. Ils doivent avoir des rondes plus régulières. Ça, ce sont des choix prioritaires, selon moi.
Dernière intervention sur ce thème, donc Philippe Rapneau.
Bah, écoutez, c'est un exercice qui est un peu compliqué parce que je suis interpellé par les trois candidats, donc il faut répondre à tout le monde sur deux minutes. Je voulais dire à François Desmazières que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il propose. Je pense que son expérience d'adjoint aux finances de Jean-Marie Van Lorenberg lui a servi dans ce domaine pour travailler effectivement sur les sujets de mutualisation. C'est quelque chose que nous avons engagé à la communauté urbaine. Bien évidemment, c'est quelque chose qui intéresse toutes les communes et nous ne pouvons le faire qu'avec l'assentiment de l'ensemble des communes. C'est pour ça que c'est un travail que nous ne pourrons mettre en œuvre qu'une fois que la communauté urbaine sera réinstallée officiellement, même si c'est quelque chose sur lequel on travaille déjà avec un certain nombre d'élus, et notamment, il l'a très bien dit, en évoquant par exemple l'informatique. Sur le tourisme, exactement aussi. D'ailleurs, si on met plus d'argent aujourd'hui sur le tourisme des Mazières, c'est parce que c'est un sujet porteur pour le territoire et qui est créateur d'emplois, et c'est pour cela qu'on y va. Je voudrais simplement citer deux chiffres. 30 000 euros de baisse globale sur le protocole, 200 000 euros sur la communication. Quand on nous dit qu'on dépense à tort et à travers dans ce domaine, ça c'est la réalité des chiffres, c'est vérifiable. Parce qu'il y a souvent des chiffres qui sont annoncés. Ce que je demande, c'est que, on ne va pas le faire ici, mais que tous les chiffres qui sont donnés soient vérifiés par les médias. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de pouvoir le dire sur un autre sujet. Je voulais dire aussi que, pour dire à M. Zell que, bien évidemment, nous travaillons sur les taux. La base locative, c'est l'État qui la fixe. Aujourd'hui, les progressions sont très faibles compte tenu de la situation économique. Je redis une fois, on ne va pas se rentrer dans une mécanique trop compliquée. Nous, on propose de maintenir le niveau des impôts et on baissera si on a les marges de manœuvre pour le faire. Je voulais dire aussi à Mme Flautre que sur ce qu'elle évoquait, sur son projet globalement, la gratuité des transports en commun, elle signe dans son projet Aubagne, elle cite Aubagne. Je vais vous dire, Aubagne, c'est 100 000 habitants sur le réseau, c'est 4,5 millions de voyages, c'est 8 millions à Arras sans la gratuité, donc vous imaginez la qualité du travail. Et puis je voulais simplement dire sur le haut débit dans les quartiers ouest, je suis quand même surpris qu'un député européen ne sache pas qu'il y a une loi qui nous interdit d'intervenir, madame, puisque nous sommes en zone d'initiative publique sur le territoire d'Arras et que c'est Orange qui a le monopole et nous ne pouvons absolument pas intervenir, c'est la loi, c'est des lois d'ailleurs que vous avez votées à l'Europe.
Philippe Rapneau. On passe maintenant au troisième thème de ce débat Radio PFM Voix du Nord. Donc on a intitulé le vivre ensemble à Arras. Hubert Ferré, La Voix du Nord.
Oui, le vivre ensemble à Arras, on va aussi parler un petit peu d'inégalité sociale, territoriale, de chômage et de précarité. On sait qu'un maire a finalement peu de leviers pour lutter contre le chômage, mais il a en revanche une voix prépondérante au sein d'une institution communautaire, la communauté urbaine d'Arras, qui, elle, a la compétence du développement économique. Alors, il n'est pas inopportun de pouvoir vous interroger les uns et les autres sur vos constats et vos propositions en la matière. Un récent colloque organisé à la CCI d'Arras le montrait, Arras s'en sort mieux que ses voisines, du bassin minier notamment, mais les chiffres ne sont pas pour autant aussi flatteurs et enthousiasmants qu'ils pouvaient l'être il y a quelques années. La crise a bien touché, sans la couler, la capitale à Trébatte, où le taux de chômage atteint quand même 9,2% en 2013, avec une part de plus en plus importante de jeunes demandeurs d'emploi de moins de 25 ans. Et puis les chiffres sont là aussi pour témoigner, à Arras comme ailleurs, la précarité a gagné du terrain, les inégalités sociales se sont accentuées dans certains quartiers et la paupérisation de la population n'est pas qu'une vue de l'esprit. Alors on a envie un petit peu de vous entendre là-dessus. Qu'entendez-vous faire pour tenter concrètement à votre niveau d'inverser cette tendance? Quels sont les atouts et les faiblesses du territoire arrageois? Quelle place ce territoire doit-il occuper face à la toute-puissante et absorbante métropole lilloise, locomotive ou wagon d'une aire métropolitaine qui est sur les rails avec les voisins lensois et douaisiens et qui est censée nous permettre de respirer entre Lille et Paris?
Première candidate à intervenir sur ce thème, Hélène Flautre, Arras en grand, Arras ensemble.
D'abord, vous avez raison de souligner que les inégalités territoriales et sociales s'accroissent. Elles s'accroissent dangereusement au point de menacer la cohésion du tissu social à Arras. Ces inégalités, elles sont mesurables. Elles ont été mesurées, d'ailleurs, dans un rapport Compass, que je vous invite à lire, qui résume quand même une partie du bilan et de l'action de la majorité en place depuis bientôt 20 ans et qui est donc redevable, en tout cas pour une partie importante, notamment, je pense, à la question de la mobilité, qui est souvent mise en avant par les demandeurs d'emploi dans leurs difficultés et obstacles pour trouver un emploi. La question de la garde aussi de la petite enfance, parce que c'est vrai que c'est très compliqué pour les familles de s'organiser, surtout qu'à Arras, il y a une proportion très importante, largement supérieure à celle du département en termes de familles monoparentales, et on est sous-équipé en termes de capacité d'accueil de la petite enfance, de diversité aussi de cet accueil. Et puis le fleuron du bilan, paraît-il, de M. Le Turc, c'est la question de l'éducation. Mais moi, je constate que les disparités sont pas tente. C'est-à-dire que vous avez d'un établissement à l'autre entre 0 et 40% des enfants qui manifestent des insuffisances dans les acquis en matière de mathématiques ou de français. Ça veut dire que les écarts et les inégalités sont fortes. Et vous le constatez quand vous rencontrez les habitants. À Pierre-Bol, on vous dit qu'on se sent plus borinois qu'arrageois. À l'hippodrome, on vous dit qu'on se sent plus d'Invillois qu'arrageois. Autour de la place Verlaine, ma foi, quelque chose s'est passé parce qu'il y a une sédimentation de politique de rénovation urbaine depuis plus de 30 ans dans ce quartier. Mais il y a aussi des quartiers où plus de 50% des ménages, par exemple, n'ont pas de voiture. Alors quand j'entends des voitures, des parkings partout, moi je vous dis, le droit à la mobilité pour tous, c'est un droit fondamental qui va considérablement améliorer le quotidien et le confort et les opportunités pour tous les habitants qui souffrent aujourd'hui, j'y insiste, sur des discriminations territoriales, sociales et également culturelles.
On écoute maintenant Alban Euzel pour la liste Rassemblement Bleu Marine.
Les voitures, les commerçants les réclament. Bon. Enfin, concernant donc, je reviens encore sur les politiques d'austérité qui frappent les habitants, parce que moi, durant la campagne, j'ai été amené à rencontrer un certain nombre de personnes dans des quartiers, dans des situations très difficiles. Même des personnes qui autrefois votaient socialiste et qui nous ont rejoints, parce que pour eux, le Parti socialiste n'est plus rien de social. Donc ça, c'est un constat. Et évidemment, nous subissons donc les politiques qui sont menées au niveau national, et tout ce que un maire peut faire, c'est les atténuer. La précarité, c'est les conséquences néfastes de ces politiques. Donc pour atténuer, il y a différentes mesures possibles. Concernant déjà la santé, on peut agir au niveau des écoles, au niveau de la prévention. Donc avec les élèves, voire au niveau de la prévention, avec l'hygiène, les cantines, avec les filières agricoles locales, pour avoir des repas équilibrés pour les enfants. Ça, c'est une mesure que le maire peut prendre, puisque le maire a des compétences au niveau des écoles. Également, concernant le chômage, le maire doit être un bon VRP. Il doit attirer les entreprises sur la commune, mais dans tous les quartiers d'Arras. Je parlais tout à l'heure aussi des caméras de vidéoprotection pour assurer la sécurité partout, puisque il faut que tous les quartiers d'Arras bénéficient d'une sécurité, que tout soit paisible pour que les entreprises, les artisans, un chauffagiste, un plombier viennent s'installer sans avoir peur d'avoir un problème avec sa voiture. Ça, c'est quand même des remarques qui nous sont parvenues durant les questionnaire qu'on avait distribué aux Arageois. Concernant les inégalités territoriales, là on peut étendre par rapport à la communauté urbaine, puisque c'est vrai que des jeunes ne peuvent plus acheter dans le centre d'Arras et sont obligés, donc ils voudraient venir dans le centre d'Arras, mais ils achètent à l'extérieur, puisque l'immobilier est élevé, mais également la pression fiscale.
Alban Euzel, merci. Maintenant on passe à Philippe Rapneau, Arras au cœur.
Alors sur le vivre ensemble, moi j'entends des choses qui me surprennent. Je voudrais dire que les chiffres sont là. On parlait de secteurs en difficulté, etc. Moi, je me souviens en 1995, quand Jean-Marie Vanlorenberg a été élu, les voitures et les poubelles brûlées dans les quartiers, aujourd'hui, je pense que de ce côté, les choses sont fortement apaisées. Les chiffres sont là aussi pour dire qu'entre 2008 et 2012, on a eu une baisse de 27% des faits de délinquance de proximité sur Arras, dans le cadre d'un contrat local de sécurité. Et je pourrais multiplier ces chiffres. Quand on me dit qu'on est à Pierre-Bol-Borinois et ailleurs à Dainville, enfin, etc., moi je me suis dit, on ne doit pas vivre dans la même ville, on ne doit pas entendre la même chose, mais c'est vrai que quand on a des projets et qu'on veut faire le mieux vivre ensemble et qu'on me dit par exemple qu'il faut remettre le crachon à ciel ouvert sur le cours de Verdun, alors que c'est un sujet que nous savons que nous portons depuis longtemps et que c'est prévu dans le cadre de l'aménagement de Schramm, je voulais simplement dire à Mme Flotte qu'il faut vraiment qu'elle se promène un peu dans Arras, qu'elle apprenne le nom des rues et qu'elle sache que ce n'est pas le crachon qui passe là, mais le ruisseau des Hautes-Fontaines. Je pense que pour en parler aux habitants, c'est beaucoup mieux. Donc, quand on a la prétention de vouloir mieux vivre ensemble avec les gens, il faut les connaître et il faut connaître sa ville. Alors, sur l'aspect de l'emploi, effectivement, Arras a une particularité, c'est que la communauté urbaine, c'est 135 emplois aujourd'hui pour 100 actifs. Ce qui veut dire que nous avons effectivement beaucoup de monde qui vient travailler à Arras aujourd'hui. Avec une particularité, un emploi sur deux est un emploi fonctionnaire. Et c'est vrai que quand on voit l'évolution, avec la RGPP, la réduction des effectifs dans la fonction publique, on doit avoir quelques inquiétudes, on se doit de se projeter dans l'avenir, c'est ce que nous faisons. Et c'est pour ça que nous avons déclenché cette politique attractive, même à l'international, avec les entreprises, parce que dans Arras, des entreprises de plusieurs centaines de salariés, ce sera difficile à mettre en place. Et quand on lance des démarches comme celles que nous avons lancées, avec pratiquement 100 millions d'euros qui ont été investis par les entreprises de la communauté urbaine sur 2013, je pense qu'on avance en direction de l'emploi, mais la crise économique, à Arras comme ailleurs, on l'a subie.
François Desmazières, les citoyens s'engagent.
Oui, alors, bon, le sujet qui va de la précarité jusqu'au pôle métropolitain, il est un peu difficile à appréhender en deux minutes. Pour autant, oui, il y a une réalité triste et difficile à Arras. Aujourd'hui, ce sont 1600 familles inscrites au Resto du Cœur pour Arras-Ouest, c'est 850 à Jean Jaurès, plus de 30% sur la ville. Et donc, il y a une réalité tangible et tout à fait douloureuse. C'est plus de 6% de demandes de logement d'urgence. Donc, il y a un sujet qui touche d'ailleurs aujourd'hui des gens qui croyaient à l'abri ou à la lisière, que sont les travailleurs pauvres et même y compris certains retraités, avec des conséquences sur le logement, avec des conséquences sur le niveau de vie, avec des conséquences sur les précarités énergétiques. Et je pense qu'il y a un enjeu très fort qui est d'ailleurs municipal et intercommunal sur, par exemple, la renégociation de la DSP de l'eau ou la dimension précarité, avec aujourd'hui un système dont le ticket reste très élevé, voire plus élevé que la consommation pour des gens qui consomment très peu, doit trouver des solutions. C'est pas normal quand on est sur des revenus extrêmement faibles, quand on est à quelques centaines d'euros, la part qui vous coûte la plus chère, c'est celle du raccordement au réseau et non pas la consommation. On a des gens qui restreignent la consommation au maximum et qui se retrouvent quand même avec des factures élevées. Il y a une disparité géographique, elle a été abordée. Le taux d'inégalité mesuré entre les 10% les revenus le plus haut et les 10% les revenus les plus bas à Arras, il est de 0,44, là où il est de 0,37 en France et de 0,36 dans le Pas-de-Calais. Donc il y a un vrai sujet. Les leviers, vous avez dit, ils sont à la fois nombreux et pas forcément spécifiques. On parlerait peut-être dans le deuxième tour, mais il y a effectivement un enjeu qui est de repartir sur un dynamisme économique qui entraîne des solutions pour les personnes dans cette situation.
Justement, avant le deuxième tour, Hubert Ferré de La Voix du Nord.
Oui, justement, en revenant, c'est vrai que le sujet était un peu large dès le début. Donc on peut revenir un petit peu sur la dimension intercommunale. Vous serez donc élu à la communauté urbaine d'Arras. Quelle place souhaitez-vous pour cette communauté urbaine d'Arras, puisque Arras ne va pas sans l'Arrajois, quelle place souhaitez-vous donner à Arras dans son territoire et plus largement dans la région et notamment par rapport à la métropole lilloise?
Donc là, Hélène Flautre sur cette question.
Écoutez, dans la question que vous posez, il y a un enjeu fort, et je voudrais le signaler, autour de la gare d'Arras et de la question de la desserte de cette gare d'Arras, d'articulation entre le TER et le TGV. On a perdu beaucoup dans ces dernières années en termes d'aller-retour de lignes à grande vitesse sur la gare d'Arras. C'est un enjeu qui demande une mobilisation de tous les élus. Et c'est très important aujourd'hui que la fréquence des arrêts dans cette gare soit absolument assurée et garantie. La deuxième chose, et il y a un ouvrage à faire pour ça, ça s'appelle le saut de mouton, on ne va pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps, mais il faudrait quand même que le futur maire d'Arras, et je m'y engage pleinement, se mobilise pour faire en sorte que ce saut de mouton soit réalisé. Moi, je considère qu'Arras a vocation à devenir une grande ville européenne, inscrite dans le réseau des villes européennes qui sont connues et reconnues pour leur histoire, leur patrimoine, leur qualité de vie, leurs innovations sociales, sociétales, environnementales. Et c'est ça mon ambition. Je crois qu'il est vain de vouloir faire la compétition entre métropoles, la métropole lilloise, le pôle métropolitain de l'autre côté. Je crois d'ailleurs de ce point de vue que le soutien que M. Rapneau a apporté au RER du bassin minier est totalement néfaste pour l'avenir du territoire arrageois. Ce serait bien qu'il s'en rende compte, parce que cela va complètement marginaliser notre territoire, le secondariser par rapport aux relations entre le bassin minier et la métropole lilloise. Donc une grande ville, nous avons tout le potentiel pour faire ça. Le patrimoine, l'histoire, la culture, nous pouvons développer réellement tout ce savoir-faire, le faire connaître et faire en sorte que Arras, notamment dans le cadre des commémorations de la Première Guerre mondiale, prenne toute sa place. Nous allons être très visités. C'est le moment de faire tout ce qu'il faut pour que notre belle ville d'Arras soit pleinement reconnue à l'échelle européenne et internationale. C'est possible.
On passe maintenant à Alban Euzel.
Oui, c'est vrai que la gare d'Arras, c'est un problème qu'on ne peut nier. Il faut absolument continuer à la desserte, c'est très important, sachant que Arras quand même est très bien positionné géographiquement et on devrait tirer un peu plus avantage de cette situation. On n'est pas loin de la Belgique, l'Angleterre, Paris. Je parlais la dernière fois du tourisme, on pourrait faire venir des touristes chinois parce que c'était à 50 minutes en train de Paris. Voilà, il y a un gros potentiel à Arras, c'est une magnifique ville chargée d'histoire. Et voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas assez utilisé, mis en avant, je pense. Également, donc, je disais tout à l'heure, faire venir les jeunes au sein du centre-ville et des milieux modestes, parce que c'est vrai que là on parlait des inégalités territoriales, beaucoup de personnes sont contraintes de rester à l'extérieur, dans les petits villages, et bon, pour venir travailler, ils font aller-retour une heure de route. Ce n'est pas une vie correcte pour la qualité de vie et ça cause des inégalités entre les habitants de la communauté urbaine. Il faut que chacun ait un choix. S'il y en a qui veulent habiter à la campagne, ils le peuvent, mais il ne faut pas que ça soit imposé. Également, concernant le social, moi je refuse tout assistanat. Je suis pour qu'on aide tous les quartiers, mais il faut qu'il y ait des contreparties. Moi je suis favorable à ce que les habitants qui sont demandeurs d'emploi, on les mette en relation avec des agences intérim, avec des entreprises du bâtiment, enfin différents domaines qui recherchent la main des travailleurs. Et également permettre aussi à ces gens qui, pour eux, la propriété, c'est un rêve, de leur permettre d'accéder à la propriété. Voilà, ils ont un logement, je ne vois pas de cas d'habitat, des logements sociaux, et peut-être par la suite réfléchir à des dispositifs pour leur permettre d'acquérir leur logement, et comme ça il restera quelque chose pour eux à transmettre à leurs enfants.
Philippe Rapneau.
Oui, alors sur... Je vais reprendre la gare, parce que je pourrais bien évidemment parler sur ce sujet de l'intercommunalité. Monsieur Ferret, je pourrais vous dire plein de choses. Je pense que ce qu'il faut retenir est l'essentiel du projet qu'on a travaillé avec l'ensemble des maires, d'ailleurs, de la communauté urbaine. Ces trois mots-clés, c'est l'emploi, c'est le logement et c'est bien sûr la mobilité, qui est un sujet d'importance. Et le plan local d'urbanisme intercommunal que nous allons mettre en place, en œuvre, avec l'ensemble de la population du territoire, débouchera aussi sur un plan de déplacement urbain qui nous permettra d'avancer encore un peu plus dans ce domaine. Si je m'intéresse, et si on fait un focal sur la gare TGV, je suis quand même un petit peu surpris d'entendre que nous n'avons, semble-t-il, aux yeux de Mme Flotte, rien fait. je peux, Madame Flotre, dès ce soir vous adresser les 5 ou 6 motions qu'à titre personnel j'ai déposées en région, que j'ai courrier que j'ai adressé à l'État pour, je dirais, maintenir la desserte TGV, mais aussi développer l'offre TER sur le territoire arrasois. Nous sommes aujourd'hui à 11,5 voyages aller-retour sur Arras-Paris. Ça n'a pas baissé d'ailleurs depuis quelques années, contrairement à ce qui est dit. En plus, on a la chance, grâce aux politiques régionales, d'avoir un TERGV que M. Desmazières emprunte assez régulièrement et moi pour aller à Lille, qui est très efficace. Quant au saut de mouton que vous évoquez, madame, je suis désolé, mais peut-être que vu de Bruxelles, c'est un peu loin, mais le premier qui l'a défendu, c'est moi. Je continue à me battre. J'ai des engagements à l'auteur de 50 millions d'euros par la région pour le faire. On attend les 50 millions. Si vous pouvez essayer de décider M. Pépi, parce qu'il se fait tirer un peu l'oreille, alors que M. Percheron souhaite vraiment la réalisation de ce saut de mouton, qui permettrait d'améliorer les choses, mais qui ne réglera pas tout. Mais en tout cas, ce serait une belle avancée. Le centenaire, rassurez-vous, on s'en occupe. Et alors là, vous me reprochez d'avoir voté une délibération sur le RER entre le bassin minier et Lille. Encore une fois, je vous invite à regarder clairement les choses. Arras est compris dedans. C'est pour ça que je soutiens ce projet. C'est pour ça, et c'est pour ça qu'avec les élus du bassin minier, nous défendons le pôle métropolitain pour justement avoir cette liaison avec Lille. Et d'ailleurs, Jean-François Caron, qui soutient cette démarche, qui d'ailleurs fera un bon président du pôle métropolitain, je le lui ai dit, vous pouvez le vérifier. Visiblement, à Europe Écologie Les Verts, on ne se parle pas d'un territoire à l'autre.
Merci. François Desmazières, dernière intervention sur ce thème.
Oui, d'abord, j'en étais à l'idée que pour répondre, alors pas à toutes les personnes en situation de précarité, mais de recréer de l'emploi, de recréer de l'activité, il faut un projet économique centralisé, fort, et notamment autour de la citadelle, dont on considère aujourd'hui que les choses sont allées de manière extrêmement timorée, autour d'un pôle d'enseignement supérieur, autour de clusters. On a déjà dit qu'Arras était 37e sur 39e dans le classement de l'expansion sur les villes les plus business friendly. Donc il faut cette volonté très forte. Pour revenir sur le sujet de la place d'Arras dans le ferroviaire, dont je suis effectivement un utilisateur assez avisé, moi ce que je ne comprends pas, c'est que... Je comprends que le maire et le président de la communauté urbaine sont sur la même position. Parfois, la communauté urbaine, ça peut être l'aigle à deux têtes. Là, les deux têtes regardent dans le même sens. Oui, alors, c'est un projet d'un milliard d'euros pour nous, contribuables régionaux, ce qui déjà mérite d'une vraie réflexion. Et que dans un deuxième temps, il est prévu un barreau à Arras pour permettre une liaison qui nous mettra royalement à Arras à 36 minutes de Lille. Là où le TERGV, qu'on emprunte aujourd'hui avec beaucoup de bonheur et de succès, nous met à 21 minutes. Expliquez-moi l'intérêt des leaders arrasois d'aller défendre ce projet qui a deux risques évidents. Nous faire vider la substance de la gare le temps que le deuxième barreau arrive, et donc de faire de cette troisième gare autour des Nabomont et du Terril Saint-Andiette, de faire le lieu, le pôle d'échange de la région, avec des Arrasois qui ne sont pas plus bêtes que les autres, qui iront prendre leur voiture jusqu'à Saint-Henriette pour rayonner ensuite sur Lille. Je fais le pari qu'ils prendront Lille, même ce RER, pour aller prendre le train à Lille, puis partir à Paris. Et puis deuxième chose, vous savez bien que ces gens-là ne font rien gratuitement. Si Noyelle-Godot a bougé l'oreille il n'y a pas longtemps, c'est pas pour rien. C'est qu'autour de cette fameuse troisième gare, on peut très bien imaginer des investisseurs commerciaux qui vont arriver et développer un énorme complexe. Et que si on avait encore un espoir de sauver le commerce en centre-ville arrasois, là, c'est la mort du petit cheval.
On passe au quatrième et dernier thème de ce débat Radio PFM Voix du Nord. On va parler de la vie culturelle arrageoise. C'était d'ailleurs aussi le thème d'un dossier qui est paru dans la Voix du Nord le 28 février dernier. Vie culturelle arrageoise caractérisée par une certaine richesse en termes d'événements, de programmation, de lieux, d'implication associative aussi, mais avec des questions qui restent en suspens: l'accessibilité, la diversité, la ligne politique culturelle, l'occupation des différents lieux, la part de l'événementiel, ou encore ce qui ressortait aussi du dossier paru dans la Voix du Nord, la compétence ou pas de la CUA dans ce domaine. Le premier à intervenir sur ce thème, Alban Euzel.
Oui, comme je l'ai dit, Arras est une ville magnifique de par son patrimoine et historique et culturel. Et je tiens à saluer aussi les nombreux Arrageois qui s'investissent, les bénévoles pour la culture dans la ville. Et justement, donc, le rôle du maire est d'aider ces bénévoles qui œuvrent pour la culture. Et pour cela, le maire doit être un lien entre les habitants et la culture. Il faut qu'il encourage les prises d'initiatives, notamment par la promotion et les publicités des manifestations culturelles. Ça, c'est vraiment la mission primordiale du maire, et évidemment de démocratiser la culture. Parce qu'évidemment, les gens ont tendance à ne pas voir ce qu'ils ont sous les yeux. Hein. Je pense au théâtre, mais d'autres, au musée aussi. Et donc, c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Voilà. De même, concernant les écoles, donc de compétences du maire, le maire peut prendre l'initiative. Il peut, par exemple, proposer une plateforme culturelle aux écoles. Elle pourrait choisir au sein de cette plateforme, elle pourrait choisir des sorties scolaires pour leur classe. Parce que l'Arras, il y a le choix. Arras est riche dans son patrimoine. Et il est tout à fait possible de visiter le musée, des lieux emblématiques, et voir les réalisations architecturales de notre ville pour les élèves arageois. Le maire doit avoir de l'ambition pour sa ville. Donc l'ambition, on avait parlé tout à l'heure au niveau économique, mais également au niveau culturel. Et donc là, je parle également, c'est un exemple parmi d'autres, mais du complexe cinématographique, j'y tiens un peu. Et je pense que Arras est le chef-lieu du Pas-de-Calais. C'est normal qu'il y ait des équipements à la hauteur d'une ville comme Arras, que les gens ne sont pas obligés d'aller faire je ne sais pas combien de kilomètres pour aller aussi voir une piscine olympique. C'est dommage que ces équipements ne soient pas présents à Arras.
Sur le thème culture, on écoute maintenant Philippe Rapneau.
J'ai l'honneur de démarrer deux fois. Alors, sur la culture, il faudrait qu'on se mette d'accord sur le sujet. En fait, de quoi parle-t-on ? S'agit-il des équipements culturels que depuis 1995, sous la présidence de Jean-Marie Van Lorenberg, nous avons rénové, le théâtre, la création d'un pôle culturel à l'ouest avec la rénovation de la salle de spectacle, la création d'une médiathèque, d'ateliers autour des musiques actuelles, la rénovation au sud de la ludothèque Torchy, la réouverture de l'hôtel Dauguin, monument qui était à l'époque, je dirais, délaissé, la rénovation du casino qui est en cours. Où parle-t-on des événements fédérateurs que nous avons accueillis puis développés, le Festival du film, le plus grand festival du cinéma au nord dans le Nord-Pas-de-Calais, le Festival Fête de la Chanson, premier festival de la chanson française de la région, le festival totalement innovant autour de la musique classique avec les Inouïs, le Salon du Livre, le premier festival en plein air qui d'ailleurs a été à l'époque soutenu par l'adjoint à la culture qui était François Desmazières. Les 300 000 visiteurs de Versailles avec un vrai programme en résonance avec le tissu local mais aussi avec le Louvre-Lens, le Main Square qui est devenu un festival à la Citadelle et qui touche tous les secteurs avec bien évidemment tous les quartiers d'Arras avec la politique des tremplins qui a été mise en place. Et aussi bien sûr la création de l'office culturel avec les 80 associations qui sont à l'intérieur de cet office. Et puis ça c'est le travail qui a été mené et puis les propositions. Travailler à la labellisation d'Arras comme ville d'art et d'histoire, l'installation du conservatoire à l'Hospice Saint-Pierre, l'installation de l'office culturel à Saint-Va, la création d'un passeport à l'initiation culture pour permettre la découverte de plusieurs pratiques culturelles dans l'année, que chacun puisse découvrir et faire ses choix, la création de locaux de répétition à côté du Pharos, et enfin la modernisation avec le passage de la médiathèque au numérique.
François Desmazières.
Oui, dans ce que j'entends, il y a effectivement un certain nombre de rénovations d'équipements et d'impulsions d'événements que je souligne, d'autant plus que j'y ai pris une part active de 2001 à 2008, donc j'ai pas d'état d'âme avec ça. Je pense que ce dont souffre aujourd'hui Arras, vraiment à la base, c'est d'un déficit de présence artistique et de déficit de structure pour que les artistes déjà présents sur le territoire puissent s'exprimer. On a fait une proposition très forte qui est la Maison des Mots, qui est un lieu de résidence et donc de réaménager le bâtiment pour permettre réellement, ce qui était d'ailleurs sa vocation initiale, d'avoir deux studios de résidence qui ne seraient pas sur les mêmes spécialités, écrivain, chanteur, plasticien, et de créer autour de ces résidences croisées des rencontres avec le public scolaire, avec le public touristique, pourquoi pas, dans un lieu qui serait ouvert entre midi et deux pour des ateliers de pratique, pour des personnes qui... Voilà, c'est un des moyens de faire revenir des flux en ville. Et donc, ça nous paraît être un enjeu très fort, qui permet d'ailleurs de travailler avec un certain nombre de structures existantes, le Centre régional des lettres, Colère du présent, Escale des lettres. Enfin, nous avons les acteurs qu'il faut, nous avons des librairies privées, nous avons un réseau de médiathèques publiques, de travailler avec tous ces gens-là pour obtenir un contrat de territoire lecture qui est mis en place par le gouvernement et qui est un outil intéressant pour toucher tous ces sujets, dont l'illettrisme qui reste un sujet important. Au-delà, c'est le soutien aux associations. Philippe Rapton en a énuméré. Bon, voilà, je ne vais pas le refaire, qui te font un travail pérenne de création et de diffusion. C'est de relancer une école municipale d'art qui aujourd'hui n'a pas, enfin on a les jeunes qui souhaitent s'engager dans ces cursus ne peuvent pas rentrer directement dans l'école des beaux-arts et pourraient avoir une passerelle qu'on pourrait envisager d'ailleurs avec la citadelle, avec le pôle d'enseignement supérieur que l'on souhaite y développer.
Hélène Flautre.
Je crois que M. Rapneau, il s'est livré à un inventaire, un compte administratif des événements, des équipements, des rénovations, mais tout ça, ça ne fait pas, in fine, une politique culturelle. Et je crois que c'est ça qui manque à Arras, finalement, c'est qu'il n'y a pas de politique culturelle. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de directeur non plus des affaires culturelles. Donc on ne sait pas quel est l'objectif, comment ça s'organise dans le temps, quelle est la stratégie, ni ce qu'on veut faire. Alors on est quand même un peu sauvés, parce qu'il y a quand même un réseau associatif qui est extraordinaire. Donc les gens n'attendent pas qu'on vienne les chercher pour prendre des initiatives. Donc il se passe plein de choses, et plein de choses qui, manifestement, rencontrent de l'engouement, du public, de la fidélisation au cours du temps. Et c'est formidable. Quelle chance. Mais je veux dire, quand ces associations se réunissent pour décider ensemble qu'elles ont besoin d'un lieu d'expression, d'un lieu d'information, d'un lieu de sensibilisation pour délivrer leurs informations au public, comme elles l'avaient fait pour la salle de l'harmonie, on leur oppose une espèce de nébuleuse où finalement les choses ne se font pas pour des raisons qu'on ne comprend pas. Je veux dire, quand on a cette chance, on la saisit, on ne la laisse pas passer. Et cette non-politique culturelle, elle est masquée par des événements très médiatiques. Alors, comme M. Rapneau l'a fait, après on engrange le nombre de fréquentations et l'argent que ça rapporte, etc., etc., etc. Donc les fréquentations, mais tout ça répond toujours pas à la question. C'est-à-dire, la question, c'est comment chaque habitant a la possibilité d'être partie prenante d'un projet culturel ou artistique. Et les artistes, ça peut être dans les salles, ça peut être hors les murs aussi. Moi, je crois que dans toutes les grands enjeux de rénovation urbaine, d'aménagement urbain, il faut faire intervenir des artistes dans l'espace public. Vous voyez, on a une entrée nord d'Arras qui ressemble à une vaste zone commerciale. Alors ça, c'est un vrai ratage quand même, cette entrée nord d'Arras, qui montre que dans l'aménagement urbain, il n'y a aucune conception de l'urbanisme, de la culture et de l'art dans la ville. Et ça, je crois que c'est une dimension qu'on peut et qu'on doit, par respect aussi, j'allais dire, ou en harmonie avec le passé d'Arras, tout à fait valorisé. Nous avons aussi, pour la citadelle, un projet du Cité du Livre, je le cite, du Livre de l'Art et de l'Artisanat d'Art à la citadelle.
Alors, il y a un deuxième tour de parole sur cette question culturelle. Peut-être chacun peut répondre sur la ligne politique culturelle ou la non-ligne politique culturelle qui existe à Arras. Et puis, on n'a pas parlé de la compétence communautaire pour la culture. Hein. C'était évoqué dans le dossier dans La Voix du Nord. Alors, deuxième tour, et c'est à nouveau Alban Ozal qui commence ce tour de parole.
Je pense qu'il faudrait plus d'ambition pour la politique culturelle à Arras. Et bon, je prends des exemples concrets. C'est à quand Arras aura un véritable zénith. Je pense qu'aussi Arras devrait avoir des expositions éphémères plus fréquemment. Et il serait très bien, formidable même de réouvrir le centre culturel Norrois. C'est un centre que j'ai connu quand j'étais à l'école et puis au collège. Et j'ai pu bénéficier moi-même de ces visites à différentes expositions. Donc ça, voilà, ce sont des points concrets pour faire revivre la culture à Arras. Également, concernant l'ambition, c'est recréer vraiment des grandes fêtes à Arras, à Lampe. Je pense à la fête des rats qu'on pourrait remettre en avant, faire participer tous les quartiers d'Arras. Justement, on parlait tout à l'heure des inégalités territoriales, mais tous les quartiers, vraiment, il y aurait une convergence. Et tous les habitants seraient associés à cette fête. Également, je pense que, voyons encore plus loin, c'est instaurer un carnaval. Il y en a bien un à Dunkerque, je pense qu'Arras peut tout à fait accueillir un carnaval. C'est quelque chose qui, notre ville en plus, avec le patrimoine architectural qu'on a, serait quelque chose qui, je pense, ferait grandir Arras en notoriété.
Philippe Rapneau.
Je pense que déjà le milieu associatif arrageois qui est fort dans le monde culturel est soutenu et est accompagné. C'est le rôle de la collectivité, je crois. Nous n'avons pas à décréter à l'intérieur de bureaux à la ville d'Arras de ce qui est bon ou pas en matière de politique culturelle. Nous avons à mettre des moyens, insuffler les choses, mais il appartient effectivement aussi au milieu associatif, ce qu'il fait très bien d'ailleurs sur Arras, j'en ai fait la démonstration tout à l'heure, à venir présenter des projets qui le sont, qui sont, quand bien évidemment ils sont portés par ces associations, soutenus et accompagnés, et qu'il n'y a pas besoin, effectivement, parce qu'il y a un problème de vacances avec un directeur de la culture qui n'a pas été encore remplacé, mais qui l'est dans les faits, qu'il sera dans les faits très prochainement, eh bien, il n'y a pas besoin d'un directeur, il ne faut pas vouloir personnaliser à chaque fois les choses. Il y a une direction de la culture et qui est là à la disposition des associations. Et moi, j'en veux pour preuve les relations qu'on a avec les associations culturelles sur le territoire. Je ne les entends pas se plaindre de mauvaises relations avec la ville et au contraire, plutôt se féliciter de l'accompagnement. Monsieur Zell, vous voulez un zénith? Oui, je ne sais pas comment on le paye, mais pourquoi faire, puisque nous avons
Paris,
aujourd'hui...
Vous avez un bon budget.
Attendez. Je ne vous ai pas coupé.
On a aujourd'hui
une salle qui a été réaménagée, qui Artois Expo, qui est à Saint-Laurent-Blangy, certes, qui est propriété de la Chambre de commerce, mais dans laquelle la communauté urbaine, c'est peut-être un signe d'ailleurs sur ce qu'on peut faire en termes d'accompagnement à la communauté urbaine, a mis 1 million d'euros sur les 3 millions qu'a coûté la rénovation. Et cette salle est tout à fait appropriée aujourd'hui. Quand on avait fait Artois Expo, il y a 15 ans, j'avais dit, je regrette qu'on ne fasse pas d'aménagement scénique, ce qui a été fait. Et puis, quant à l'entraîneur, madame, je vous laisse votre jugement, ça a été validé par l'ABF, mais on fait quoi? On rase avec l'argent de qui? Vous allez virer les entreprises qui y sont aujourd'hui?
François Desmazières.
Hippopotamus s'est viré tout seul, manifestement.
Non, madame, je pense que, renseignez-vous bien sur Hippopotamus, je pense que vous vous trompez. Le dépôt de bilan n'est pas lié à l'activité arrageoise, c'est un sujet beaucoup plus compliqué et qui intéresse à un groupe lillois.
On passe à François Desmazières, si vous voulez bien.
Oui, je crois qu'on a souligné un certain nombre de points positifs et d'acteurs positifs dans la politique culturelle. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut une vraie gouvernance et une vraie direction des affaires culturelles. Alors on me dit qu'il y en a une qui avance dans l'ombre, on ne sait pas quand elle va en sortir, hein, qui est une direction officieuse, qui s'occuperait de patrimoine, de tourisme, voire de commerce, peut-être de sport. Enfin voilà, donc je pense qu'il faut être sérieux, il faut une vraie direction des affaires culturelles qui est un enjeu à Arras, une direction qui valorise, qui impulse, qui coordonne d'abord les établissements. On a un certain nombre de vrais établissements publics qui travaillent pour la culture aujourd'hui et qui effectivement autour, mais ça s'est fait, ça avait sur les périodes 2005-2008, on avait ce travail-là avec un poumon qui était le poumon du théâtre et ça sera mon deuxième sujet. On a aujourd'hui un théâtre en tandem dont le guidon est à Douai, ce qui fait que notre part de décision dans la direction de l'appareil est quand même assez limitée et que le seul intérêt finalement qu'on fait miroiter, c'est qu'on aurait un jour le label scène nationale par ricochet. Bon, c'est pas sérieux. Je pense que Arras mérite une équipe à part entière avec un directeur de théâtre qui est présent sur place et qui impulse avec le territoire une politique culturelle. On a par exemple abandonné complètement la politique jeune public qui était une tradition du théâtre d'Arras. Il est urgent d'y retravailler. C'est un besoin des écoles, c'est un besoin d'un certain nombre de structures. Sur la mutualisation, moi j'ai dégagé depuis. Je ne pense pas qu'on ira par les équipements. Je connais les difficultés des maires d'aborder le sujet de manière frontale. J'y étais y compris impliqué quand il s'est agi d'essayer de récupérer l'hôtel de Guine en 2004. Donc je pense qu'il faut poser les choses de manière plus fine et intelligente et qu'on peut rentrer par des politiques. C'est vrai sur la lecture publique, c'est vrai sur l'enseignement musical. Voilà. Et dernier mot, oui, il y a la place aujourd'hui pour un complexe ciné-art-essai à Arras. Celui qui a fermé nos rois l'a fait pour des raisons qui ne sont pas des raisons de politique culturelle. Et s'il le fallait, moi je milite pour qu'il soit dans les quartiers sud, au plus près de l'université.
Dernière intervention sur le thème vie culturelle, Hélène Flautre.
Bonne idée, ça.
Oui, on pourrait évidemment aussi discuter de l'action d'éducation artistique et culturelle que produisent les associations très régulièrement et qui doit absolument être encouragée et renforcée. Il faut souligner également le manque de locaux de répétition et de travail hein, pour les équipes artistiques de façon libre. Le manque a été cruellement souligné par plusieurs d'entre elles. Et puis de salles d'exposition. Donc on manque, je dirais, non pas d'équipement, mais de vocation. On ne sait pas quelles sont les vocations des grands équipements, parce qu'ils sont très importants. Le projet du Palais Saint-Va est très important. L'hôtel de Guine a une affectation flottante. Le casino, ça n'est également pas très clair. Je crois que quand on a la chance d'avoir un festival comme celui d'Arras Festival, on ne tergiverse pas sur les conditions de travail de l'équipe qui l'organise, sur les conditions d'accueil des professionnels qui tous les ans aujourd'hui se réunissent à Arras et sur la façon dont on peut vraiment faire d'Arras une ville cinéma, c'est-à-dire une ville qui est capable aussi d'attirer la production cinématographique en mettant par exemple sur place un bureau de production permanent de façon à aider les tournages sur Arras. Et ça, je crois que ce sont des filières finalement qui nous sont offertes par le travail des associations, par la fidélité et l'intérêt aussi de ces événements culturels et qu'il faut encourager. Et je voudrais souligner que, en ce qui concerne le Main Square, qui fait tellement l'objet d'une communication massive que quand vous décrochez le téléphone pour avoir la mairie d'Arras, vous avez le programme du Main Square qui tourne en boucle. Hein, c'est quand même assez étonnant. Eh bien, ce Main Square est quand même, qu'on se le dise ouvertement ou pas, il est financé de fait, puisqu'on finance les fluides. Par contre, c'est une opération totalement privée. C'est-à-dire que toute la logistique en termes de restauration, par exemple, est totalement internalisée par Live Nation. Et ça, je crois que c'est tout à fait dommageable parce que c'est une perte à gagner considérable pour le commerce de centre-ville que, par ailleurs, on prétend à la mairie vouloir absolument soutenir à chaque instant. Merci. Or là, ils Merci le disent aussi de façon extrêmement nette. Donc il faut penser vraiment à la territorialisation des activités culturelles.
Je
ne
peux pas laisser dire des choses pareilles qui sont des mensonges.
Dernier mot pour ce débat. Dans votre intervention, on va vous laisser 2 minutes, c'est la dernière partie, chacun est invité à conclure de la manière dont il le souhaite pendant 2 minutes. Donc justement, c'est Philippe Rabneau qui commence.
Bien, bon écoutez, je crois que ce débat touchant à sa fin, je ne vais pas revenir sur toutes les polémiques que je pourrais lancer, mais ce que je viens d'entendre sur le cinéma est particulièrement édifiant. On n'a jamais tourné autant de films à Arras, La liste de mes envies, le dernier film de Canet, et vous en savez quelque chose puisque vos militants l'ont rencontré, et Christian Carillon qui va débuter bientôt son tournage. Donc j'avoue qu'on ne doit pas vivre dans la même ville, Madame Flotre, on ne voit pas les mêmes choses. Mais ce n'est pas grave. Je voulais tout d'abord excuser officiellement Frédéric Le Turc, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire au début de mon propos, tout simplement parce que Frédéric Le Turc, qui est maire d'Arras, avait cet après-midi programmé un comité technique paritaire auquel il se doit de participer, qu'il préside et qui intéresse l'organisation des services et dont dépendent de nombreux agents de la collectivité, et par respect pour eux, il n'a pas voulu annuler ce CTP. Nous, ce que nous proposons, c'est un projet raisonnable, je l'ai dit sans hausse d'impôt, faire une ville d'Arras, une ville qui rayonne et qui a de l'avenir, une équipe autour de Frédéric Le Turc avec un maire attentif, proche des habitants et responsable. Nous voulons une ville humaine et sûre pour le bien-être de tous ses habitants. Nous voulons une ville attentive et généreuse pour faciliter la vie des familles. Nous voulons une ville belle et dynamique qui se rénove et poursuit son embellissement. Nous voulons une ville forte et ambitieuse qui compte et qui est tournée vers l'avenir. Enfin, nous voulons une ville rayonnante et attractive au profit de l'emploi local. Je ne doute pas que les Arrageoises et les Arrageois nous conserveront leur confiance le 23 mars prochain.
C'était Philippe Rapneau. Je rappelle que vous êtes numéro 3 sur la liste de Frédéric Le Turc à Arras au cœur. On passe maintenant au mot de conclusion avec François Desmazières, tête de liste pour Les Citoyens s'engagent.
Je voudrais d'abord aborder un point que nous n'avons pas eu l'occasion d'aborder, qui est un projet innovant que nous portons, qui est l'agence de la ville à mille temps. Je ne vais pas la détailler, sinon il nous faudrait une émission complète. C'est Ça existe dans de grandes agglomérations comme Poitiers. Ça travaille sur l'amplitude horaire d'ouverture des services publics, sur l'approche plus moderne avec des modes de vie des habitants, mais aussi le soutien au télétravail, la négociation avec les grands employeurs publics pour décaler les horaires de démarrage et de sortie et éviter les bouchons comme c'était encore le cas ce matin. Mais ça touche aussi à la vie démocratique avec la suppression des réunions après 19h pour permettre aux mères de famille, par exemple, de participer à la vie publique et à la vie politique. Voilà. C'est une illustration d'une approche très innovante qui est celle qui a été possible par la démarche qui est la nôtre et par l'ouverture que nous avons depuis ce début. Arras a été la belle endormie, elle a été réveillée, embellie. Il faut maintenant qu'elle se mette en marche et qu'elle innove pour retrouver son génie historique, celui qui en a fait un carrefour économique et commercial et le berceau du théâtre et de la poésie. Il faut du souffle, il faut de l'ambition, il faut une vision et il faut aussi du caractère, de l'expérience et de l'audace pour celui qui a l'exprimer et à le conduire. Voilà pourquoi je crois qu'avec l'équipe jeune qui est ancrée dans la réalité professionnelle, sociale et associative, nous sommes les mieux à même de conduire ce projet pour la période après 2014.
On écoute maintenant Hélène Flautre, tête de liste pour Arras en grand, Arras ensemble.
Moi, je crois que ce qui me différencie du projet de M. Le Turc, c'est non pas de ne pas vivre dans la même ville, mais de ne pas avoir la même ambition pour cette ville. Je crois tout simplement qu'après bientôt 20 ans, les mêmes au pouvoir commencent à s'essouffler. D'ailleurs, on le voit au projet qu'ils portent, qui est tout à fait étonnant d'y retrouver des copier-coller de certaines de nos propositions, à François de Mazière et à moi-même d'ailleurs, dans une espèce d'hybridation tout à fait sympathique. Simplement, ça fait 20 ans que, ou quasiment 20 ans que vous êtes là et que votre équipe, désormais essoufflée, n'a plus de choses à proposer à cette ville. Cette ville a pourtant un énorme potentiel, ça a été dit et souligné par plusieurs d'entre nous aujourd'hui, et il faut dans ces temps qui sont difficile pour les habitants, difficile pour l'action publique. Dans ces temps de transition écologique et sociale, il faut être capable de mobiliser toutes les énergies et toutes les ressources pour faire avancer cette ville, réellement pour l'inscrire dans son territoire du 21e siècle, une grande ville où les droits fondamentaux sont garantis pour les habitants sans discrimination et qui s'inscrit dans un réseau européen ambitieux de villes qui préparent l'avenir. Et une ville qui prépare l'avenir, c'est une ville qui travaille sur ses filières d'avenir, qui envisage par exemple un territoire périurbain d'une agriculture biologique, qui est capable de lancer des grands travaux de rénovation pour économiser les 300 000 euros que nous avons payés en surplus l'année dernière sur notre facture énergétique et qui est capable de répondre réellement aux besoins fondamentaux en termes de logement, en termes de déplacement, en termes d'éducation, en termes d'emploi pour tous les habitants. Et c'est cette ambition que nous portons. Nous la portons avec une équipe extrêmement dynamique, très motivée, très compétente, aux compétences variées et avec une gauche qui est aujourd'hui rassemblée pour l'emporter à Arras et écrire une nouvelle page de l'histoire d'Arras.
Dernier candidat donc, à proposer sa conclusion, Alban Euzel, tête de liste de Rassemblement Bleu Marine.
Oui, il n'y avait pas que Frédéric Le Turc qui avait des obligations, moi également. Vous savez, on peut prévoir longtemps à l'avance dans ces agendas. Donc, concernant Arras, évidemment, les problèmes récurrents dont on a parlé aujourd'hui, c'est concernant la fiscalité, le commerce, les inégalités sociales et territoriales. Bon, il y a des responsabilités, voilà, ce sont ceux qui ont dirigé Arras jusqu'à maintenant. Donc c'est bien beau maintenant de faire des promesses, de dire que tout va aller mieux. Moi j'ai toujours un dicton en tête, hein, c'est grand diseux, petit faiseux, voilà. On a toujours des grandes promesses comme le pacte sur le commerce qui est mis en œuvre juste avant les élections. Bon, c'était bien de faire ça quelques années auparavant. Moi ce que je propose c'est une politique alternative de bon sens. C'est-à-dire, je répète, par rapport à la fiscalité, on a des marges de manœuvre, il est tout à fait possible de baisser la fiscalité locale. J'avais parlé dans mon dernier débat à Weo de 5%, c'est tout à fait faisable. Concernant la sécurité, moi je propose de la vidéoprotection dans tous les quartiers d'Arras. Concernant les commerces, je suis le seul candidat à proposer des zones bleues et à exonérer les commerçants de différentes taxes. Je suis favorable donc à la transparence, comme tout le monde, pour les logements sociaux, mais moi là je mettrai le paquet, je serai très vigilant dans ce domaine. Concernant le social à Arras, je suis contre l'assistanat. Je pense qu'il faut encourager les demandeurs d'emploi, les mettre en relation avec les agences d'intérim, avec les entrepreneurs. Et il y a du potentiel dans les quartiers, mais il faut que voilà, le maire doit être derrière et créer un lien. Et je, voilà, pour Arras également, c'est ce qui est le plus important au niveau local, c'est consulter la population fréquemment, notamment par des référendums locaux. Enfin, moi j'ai de l'ambition pour Arras. Et c'est pour ça que je suis fier d'être arrageois et j'ai confiance en ses habitants.
Merci à celles et ceux qui ont participé à ce débat. Je rappelle qu'en cas de second tour à Arras, les candidats toujours en course seront invités pour un débat d'entre deux tours. Merci à La Voix du Nord, Hubert Ferré, aussi Marco Verriès. Merci à l'équipe de PFM, Boris et Bernard à la technique, Antoine au chrono, Guy, Jean, Honorine à l'accueil. Je vous rappelle les horaires de diffusion de ce débat sur Radio PFM. C'est le mardi 11 mars à 20h, le mercredi 12 à midi et 21h, le jeudi 13 mars à 10h du matin, le dimanche 16 mars à 13h. Ça sera aussi en libre écoute et téléchargement sur le www.radiopfm.com et puis un compte-rendu dans les colonnes de La Voix du Nord à lire cette semaine. Rendez-vous aussi le dimanche 23 mars prochain. On sera en direct sur PFM pour la soirée électorale du premier tour des municipales. On parlera d'Arras, mais aussi de toutes les communes aux alentours et en région aussi. Donc, dimanche 23 mars à partir de 19h30. Merci. I'd like to have a democracy. I'd like to have a democracy. Democracy. I'd like to have up many people on the street. Democracy, 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 democracy. I'd like to democracy have a democracy. Democracy, 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 democracy. Democracy, 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 democracy. Many people on the streets. Democracy, 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 many people on the street. Democracy, 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 democracy. I'd like to democracy have a democracy, democracy, democracy. Many people on the streets. Democracy, 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 many people on the streets.
Democracy, many people on the streets. Democracy, 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 many people on the streets. Democracy, many people on the streets. Democracy, many people on the streets. Democracy. Democracy.